Et donc au menu de notre club cet après-midi, un chef papou, la défense de sa forêt, de la danse-thérapie avec nos cousins canadiens et une nuit des ondes gravitationnelles. Je vous présente mes invités dans un instant. Agnès Fèvre, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, un crâne vieux de 400 000 ans et qui pourrait nous éclairer sur les origines de Néandertal.
Il a deux dents usées, un gros nez, le menton fuyant. Mmh. Les chercheurs ont passé 2 ans à extraire des sédiments et des stalagmites de ce crâne fossilisé. Alors, est-il un ancêtre de l'homme de Néandertal? On en discute avec le paléo anthropologue Jean-Jacques Hublin.
Stéphanie Texier est aux commandes de notre club qui a été préparé aujourd'hui par Chantal Le Montagnier avec Thomas Le Hété.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue donc mes invités, Sylvie Fortin, Christian Sénéchal, Fabien Cavalier et Marc Dozier. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bienvenue Sylvie Fortin et Christian Sénéchal. Vous avez échappé à la tempête canadienne. Vous êtes arrivés en France cette semaine avec les grands ballets canadiens de Montréal pour venir entre autres nous parler de danse-thérapie et des liens entre les arts et la santé. Christian Sénéchal, vous avez donc créé un centre national de danse-thérapie.
Oui, c'est ça. Ouais. En 2013 déjà, ça fait 4 ans qu'on opère, oui.
Et vous venez en France pour essayer de nous convaincre de faire la même chose?
Non, pour tout simplement faciliter l'échange entre nous.
Oui. Sylvie Fortin, l'art et la santé, c'est aussi, on va le voir avec vous, un véritable sujet d'étude à l'université, par exemple.
Oui, oui, à l'Université du Québec à Montréal, entre autres. Mais différents chercheurs dans différents pays s'intéressent à l'utilisation de la danse pour différents problèmes de santé.
Eh bien, on va en parler avec vous. On a hâte de savoir quelles sont les conclusions déjà des premières études. Fabien Cavalier, lundi aura lieu la nuit des ondes gravitationnelles en France et en Italie. Ce sera une nuit pour onduler avec les physiciens. Alors, c'est un peu ça l'idée?
Tout à fait. Ouais. Un moment plaisant entre chercheurs et grand public pour partager autour de cette découverte majeure.
Ouais, 1 an après leur détection directe. Tout à fait. Marc Dozier, vous êtes spécialiste des papous et vous avez réalisé avec Luc Maresco le film Frères des arbres, l'appel d'un chef papou, qui sera diffusé demain à 20h50 sur Arte. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots en papou pour qu'on entende la langue un petit peu?
Thank you, true, Mathieu Vida. I'm good, plat, thank you. You ring me long come loyan, I'm a mastret. Vous voulez que je vous fasse la traduction?
Alors oui, j'ai compris Mathieu Vidard et le reste.
Je dis merci beaucoup pour cette invitation. Merci de m'avoir invité ici pour parler de ce film réalisé autour de chef papou qui s'appelle Moudijé Kepanga. Voilà.
Et bien on en reparle dans quelques minutes en français ou en papou. Ce sera comme vous voulez avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Et c'est donc au Portugal que les chercheurs ont exhumé des outils et un crâne d'hominidés fossilisés datant de 400 000 ans. Il s'agit du plus vieux crâne découvert dans la péninsule ibérique et il se pourrait qu'il ait appartenu à un ancêtre de l'homme de Néandertal. Les résultats de cette découverte ont été publiés dans la revue américaine PNAS. Et pour en parler, nous sommes avec vous Jean-Jacques Hublin. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes directeur du département évolution humaine de l'Institut Max Planck à Leipzig en Allemagne. On pourrait faire une chronique régulière, Jean-Jacques Hublin, parce qu'on vous a quasiment toutes les semaines au téléphone en ce moment. Hein.
C'est-à-dire que l'actualité des découvertes est riche en ce moment, c'est vrai.
Effectivement. Alors quelles sont les caractéristiques de ce crâne découvert là au Portugal, s'il vous plaît?
Alors, d'abord, il est quand même assez, fragmentaire. Hein. Malheureusement, les caractères néandertaliens qui étaient présentés dans l'annonce, hein, le gros nez, le menton fuyant, etc., manquent. Hein. C'est une boîte crânienne, hein, essentiellement. Et c'est un fossile qui est très intéressant et très important parce que il appartient à cette période pendant laquelle on pense que l'homme de Néandertal a émergé en Europe.
Donc 400 000 ans, c'est ça, hein?
À peu près, disons, je vais compter beaucoup plus large, hein, c'est un phénomène qui se déroule entre, disons, 600 000 et 300 000.
Donc ce crâne, on ne peut pas le dater de façon précise?
Alors ce crâne-là, précisément, il est daté voilà. de façon assez exacte, hein, parce oui. que il a été découvert dans une grotte où il y a une stratigraphie assez claire. Et il a été possible d'utiliser une méthode qui s'appelle la méthode de désintégration de l'uranium pour dater des stalagmites qui sont en dessous et déposés au-dessus du niveau qu'il contient.
Et donc, on est sûr qu'il date d'à peu près 400 000 ans.
Oui, de voilà, moins 400 000 ans. Au moins 15 ou 20 000 ans, hein, mais c'est assez précis. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup des sites qui datent de cette période-là.
Oui. Alors, cette période, justement, c'est une période importante dans l'histoire de l'évolution humaine, Jean-Jacques Hublin?
Oui, c'est une période qui est qui est très intéressante parce que on a longtemps cru que l'homme de Néandertal, c'était une histoire récente, hein, à peine 100, 150 000 ans, quelque chose comme ça. Et maintenant, on voit que ça remonte beaucoup plus loin dans le temps. La paléogénétique nous indique un point de divergence entre la lignée néandertalienne et la lignée qui mène à l'homme moderne. C'est un point qui est très loin dans le temps, vers 600 000, mais les caractères anatomiques qui font l'homme de Néandertal n'apparaissent que beaucoup plus tard. Et on relie ça à des phénomènes qui sont des phénomènes climatiques, environnementaux, qui se déroulent pendant cette période. C'est une amplification du balancement entre des périodes glaciaires et interglaciaires, balancement qui devient extrême. Et on pense que ces crises climatiques ont un effet en particulier sur la taille des populations humaines, et c'est probablement un des mécanismes qui a entraîné cette divergence entre la lignée néandertalienne et la lignée qui mène à l'homme actuel.
Et que nous dit ce crâne justement sur son éventuelle inscription dans une lignée néandertalienne? Est-ce qu'il a justement des ressemblances dans sa morphologie avec des ancêtres de Néandertal?
Alors, il est quand même encore assez primitif et assez éloigné de ce qu'on va trouver chez l'homme de Néandertal, mais il ressemble un peu à des fossiles qui viennent non pas du Portugal, mais d'Espagne, la région de Burgos, un site qui s'appelle Cima de los Huesos, et où là, on a des crânes qui sont très néandertaliens, j'allais dire trop néandertaliens même pour leur âge.
Ah bon ? Qui pourraient correspondre à la même période, justement ?
Alors, ils sont officiellement datés de 430 000, mais avant ça, il y a eu d'autres estimations à 300 000, à 600 000. C'est un gisement qui est assez difficile à dater. Et donc, soit on a affaire à une grande diversité de formes à cette époque-là, soit tout simplement un certain nombre de ces sites ne sont pas suffisamment précisément datés, et on joue un petit peu sur cette incertitude. On peut les organiser dans le temps avec une accrétion progressive de caractères néandertaliens qui deviennent de plus en plus fréquents, de plus en plus marqués.
Mais alors Jean-Jacques Hublin, ce crâne, il est néandertalien ou il n'est pas néandertalien?
En fait, vous voyez, l'évolution, c'est un phénomène progressif, hein, graduel. Il y a des moments d'accélération, et là, on est dans le début de cette accélération qui mène vers la morphologie néandertalienne. Alors, il y a quelques caractères, effectivement, qui rappellent les hommes de Cima de los Huesos, qui rappellent les néandertaliens
en Espagne,
qui vont venir plus tard. Mais on est probablement vraiment au tout début de ce phénomène, et en grande partie, on a encore quelque chose de primitif.
Mais ça pourrait être une autre espèce ou pas, alors, du coup?
Alors, moi, je pense qu'on va le ranger tôt ou tard dans les néandertaliens primitifs. Ce qu'on a fait avec Cima de los Huesos, hein, on a essayé de considérer ça comme une autre espèce. Finalement, on a quand même un continuum de formes à travers le temps. Alors, lorsqu'on avait très peu de fossiles, très peu de sites, eh bien, il y avait des grands blancs dans la documentation. C'était assez facile de mettre des limites, hein, entre tous ces groupes. Et maintenant, on a de plus en plus de fossiles. On a ce fossile portugais. Il y a un fossile qui a été découvert en Serbie aussi il y a quelques années, qui appartient à cette même époque. Il y a des fossiles de la cône de l'Arago, hein, dans le sud de la France, qui date aussi de cette époque. Il y a un fossile qui est un fossile anglais qui vient d'un gisement qui s'appelle Swanscombe. Enfin bref, on a une série de formes qui nous montrent, disons autour de 400 000, comment la lignée néandertalienne a démarré.
Donc une grande diversité de caractères. Et par ailleurs, on a retrouvé aussi des outils, des restes d'animaux. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'histoire de cette hominidée ?
Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette découverte, c'est que c'est un crâne qui a été trouvé dans un gisement archéologique où on a des outillages lithiques. Et en particulier, on a une association entre ce fossile et un type d'outillage qu'on appelle l'acheuléen, et qui comporte des objets bifaciaux espèce de, autrefois on appelait ça un coup de poing, une hache préhistorique, hein, cette espèce de grosse amande en silex tranchante. Il y a beaucoup de sites acheuléens en Europe, mais il n'y a pas beaucoup où on a des restes humains associés. Et l'acheuléen, c'est une industrie qui est très intéressante parce qu'on la connaît depuis très très longtemps en Afrique, 1,8 million. Mais de façon seulement assez tardive en Europe, à partir de 600 000. Alors une des hypothèses, c'est que ces hommes de l'acheléen, dont cet homme d'Aroeira, hein, eh bien, peut-être représente une sortie d'Afrique de forme porteuse de l'acheléen et qui sont les ancêtres des hommes de Néandertal.
Ah. Voilà.
Donc... Alors l'autre hypothèse, c'est que l'acheléen européen a été inventé indépendamment de l'acheléen africain.
Voilà, donc autour de cette publication hein, sur donc, ce néandertalien primitif, on va dire les choses comme ça,
mystérieux,
et portugais, daté de 400 000 ans, et publié dans les PNAS cette semaine. Merci Jean-Jacques Hublin pour votre éclairage, depuis Leipzig en Allemagne, et puis Agnès, on se retrouve lundi.
À lundi.
Bon week-end. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la Terre qui recyclerait sa croûte terrestre, c'est en tous les cas ce que suggère une étude canadienne dans la baie d'Hudson. Les chercheurs ont remarqué que la croûte terrestre contenait un élément chimique issu de la désintégration du samarium-146. Or, cet élément radioactif n'existe plus sur Terre depuis 4 milliards d'années. Et la croûte de la baie d'Hudson a été formée bien après, il y a 2,7 milliards d'années. L'observation laisse donc penser que la croûte ancestrale a été refondue et réutilisée pour former une nouvelle croûte. Se gratter est contagieux et c'est en observant des souris qu'une équipe de chercheurs américains en est arrivée à cette conclusion. L'origine de ce comportement, c'est le noyau suprachiasmatique situé dans notre cerveau. Les scientifiques ont remarqué que lorsque les rongeurs voient un congénère se gratter, l'activité de ce noyau s'emballe. Il renvoie alors une masse d'informations en direction de l'épiderme et celui qui observe ressent alors des démangeaisons. Et puis les ours seraient des serial killers très productifs. En tous les cas, ils tuent beaucoup plus qu'on ne le pensait. C'est ce qu'a observé un chercheur en Alaska. Il a placé des caméras autour du cou d'une dizaine d'ursidés. Leur principale victime, de plus jeunes caribous et des élans qui constituent plus de la moitié de leur régime alimentaire. Sur une période de 45 jours, chaque ours a fait en moyenne 34 victimes. Un vieux mâle a même tué et mangé une femelle ours plus jeune. Pourtant, la chasse et la nutrition n'occupent que 7% du temps libre des ours. 60% du temps restant, ils se reposent. Allez, c'est le club dans un instant. A Little Less Conversation. Et c'est Elvis Presley. Et oui, à l'instant.
La tête au carré. Le club.
Et donc au menu de notre club cet après-midi, un chef papou qui défend sa forêt de la danse-thérapie, donc avec nos amis québécois, et une onde gravitationnelle et des ondes pour une nuit que vous vivrez lundi partout en France et même en Italie. Et vous nous rejoignez avec vos messages et vos questions sur le site de l'émission. On va donc commencer avec les grands ballets canadiens de Montréal qui sont en France cette semaine au Théâtre National de Chaillot pour présenter La Jeune Fille et la Mort pour la première fois en France. Mais ils sont également présents pour parler du Centre National de Danse-Thérapie. Alors Christian Sénéchal, vous êtes le président directeur général des Grands Ballets Canadiens de Montréal. Et
non, je vous corrige, je suis désolé, je suis le directeur du Centre National de Danse-Thérapie.
C'est pas mal quand même. Et donc vous allez nous parler de ce que vous faites autour de ce Centre National avec Sylvie Fortin qui est ancienne danseuse, hein, c'est ça? Mm-hmm. Et vous êtes maintenant donc chercheuse au département de la danse à l'Université du Québec à Montréal et membre de la chaire de recherche UQAM pour le développement de pratiques innovantes en art, culture et mieux-être. J'ai donné tout l'intitulé là, ça va?
Oui.
Il manque rien. Hein.
Il manque rien.
Comment vous êtes passé de la danse d'ailleurs à la recherche? Comment on fait ce passage-là?
On le fait, dans mon cas, par un problème de santé. Je faisais de la danse contemporaine, puis ce qui arrive souvent à des danseurs professionnels, je me suis blessée. Alors, c'est ce qui m'a amenée à faire des études théoriques dans le domaine de la santé, à m'intéresser aux blessures des danseurs professionnels et ensuite à m'intéresser à la danse au service de la santé de différentes populations.
Oui. Alors, Christian Sénéchal, monsieur le directeur du Centre National de Danse-Thérapie, il ne faut pas que je fasse de gaffe hein, quand même. Racontez-nous comment est né ce centre exactement au départ.
Ben, ça s'inscrit dans un projet de déménagement. On va avoir une nouvelle maison de la danse bientôt à Montréal, au quartier des spectacles. Et le conseil d'administration et la direction de l'époque se sont retrouvés devant une situation où on se disait, bon, est-ce qu'on fait tout simplement un projet de déménagement ou est-ce qu'on ne repense pas comment les grands ballets peuvent avoir un effet sur la société en général? Et c'est intéressant, c'est un peu le même parcours que Sylvie, mais pour l'accompagner, c'est-à-dire que si on peut penser à comment la danse peut aider la société, comment la danse fait du bien uniquement au public, est-ce qu'on peut pousser la réflexion plus loin? Est-ce qu'on peut offrir des cours de danse à la population pour le mieux-être, pour la mise en forme, mais pousser l'idée encore plus loin? Est-ce qu'on pourrait pas utiliser la danse pour le mieux-être au niveau de la santé?
Ouais.
Et on a fait tranquillement des recherches dans ce domaine-là. C'est là qu'on a découvert la danse-thérapie et les cours de danse adaptés.
Ouais. Donc, au point de créer un centre national, quand même. Oui. Donc, ça veut dire que l'idée a été reçue très favorablement tout de suite?
Oui, moi, j'étais engagé préalablement pour faire une étude de marché. Pour voir effectivement s'il y avait un intérêt de la part des institutions de santé. Et très rapidement, la réponse a été positive. Oui, effectivement, ça nous intéresse. On veut aller vers cette technique-là, mais les directeurs d'hôpitaux nous disaient on ne sait pas à qui s'adresser, qui est danse-thérapeute, qui est spécialiste de la danse dans ce domaine-là. Ouais. Donc, si une maison sérieuse comme les grands ballets veulent s'y mettre, c'est donc qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant derrière.
Alors, quel est le lien, justement, entre les grands ballets et ce centre? Alors, ce sont des danseurs du grand ballet qui travaillent également sur cette idée-là de thérapie ou pas du tout?
Pas nécessairement. Le centre est un département des grands ballets, au même titre que le marketing, le financement ou les communications. Il y a, oui, bien sûr, une volonté pour pouvoir aider les danseurs à faire une conversion de carrière pour qu'eux puissent utiliser la danse à d'autres fins une fois que leur carrière est terminée. Mais au niveau de la danse-thérapie comme telle, comme la formation est assez longue et assez ardue pour un danseur, les danseurs n'ont souvent pas l'occasion de pouvoir compléter la formation, pouvoir intervenir à ce niveau-là.
Oui.
Donc, mais il y a d'autres possibilités, il y a d'autres formations plus courtes. Je pense par exemple à des cours de danse adaptés, soit pour des gens qui ont la maladie de Parkinson ou de l'Alzheimer et tout ça, où on peut leur former les danseurs pour qu'ils puissent intervenir à ce niveau-là.
Ben justement, on va écouter l'extrait d'un reportage qui a été diffusé sur France 2 en mars de cette année, il y a quelques jours à peine, au sujet de la danse-thérapie pour la maladie de Parkinson. Écoutons.
Les bénéfices de la danse pour les patients sont difficiles à étudier, mais il semble que la danse améliore la marche, l'équilibre, mais aussi des symptômes tels que la dépression ou la fatigue qui altèrent de façon importante la qualité de vie des patients.
Dans la vie de tous les jours, je me souviens de la séance. Et il faut que je me souvienne de ce qu'on a fait au bon moment et ça m'apporte.
Je suis arrivé ici pas très en forme, je n'avais pas la pêche, mais là ça me donne un bien-être.
Les bienfaits, je les sortirai tout à l'heure quand je partirai d'ici. Si je marche un pas rapide et soutenu, je me dirai j'ai passé une bonne séance.
Voilà, et tout ça se passe à la Pitié-Salpêtrière, justement, dans le service du professeur Flamand Rose, c'est son nom, il est neurologue avec l'association Au rythme du corps à Paris. Alors Christian Sénéchal, vous étiez justement cette semaine également à l'hôpital Robert Debré. Oui. L'idée était de rencontrer le personnel soignant, les malades, et de leur expliquer ce que vous faites justement au Québec autour de la danse-thérapie.
Oui, entre autres, mais l'idée aussi était, et ça, ça venait d'un partenaire ici qui est en France, qui s'appelle les Castors Fripouilles, pour pouvoir faire une intervention tout simplement en milieu hospitalier avec des jeunes, mm-hmm. une unité pédopsychiatrique qui souffre entre autres de troubles de déficit d'attention avec hyperactivité. Oui. Et c'était de créer la rencontre entre nos danseurs et ces jeunes-là.
Oui. Alors, Sylvie Fortin, racontez-nous un petit peu les études qui sont menées justement entre l'art, le bien-être, le mieux-être, certaines pathologies lourdes parfois comme Parkinson. Mm-hmm. Que nous dit la science alors là-dessus exactement?
En fait, les différentes maladies n'ont pas été étudiées autant. La maladie de Parkinson, c'est la maladie qui a été la plus étudiée par différents mm-hmm. chercheurs dans différents pays. Ce qui est intéressant, on a tellement d'études que maintenant on peut même comparer un peu les effets d'une forme de danse comme le ballet ou le tango. Le tango a beaucoup été utilisé.
Ah oui, les styles de danse même, oui, sur certaines pathologies.
Oui, oui. Et on est en train de se demander quelles sont les composantes de chacun des styles de danse qui font que ça engendre les effets qui ont été mentionnés. Oui. Par exemple, le tango, est-ce que c'est parce qu'on marche par l'arrière, parfois, avec notre partenaire, par rapport à une autre forme de danse où on doit s'accorder avec oui. notre partenaire? Quelles sont les composantes dans l'activité danse qui peuvent engendrer des bienfaits sur l'équilibre, des bienfaits sur aussi la diminution de l'agressivité,
sur quel type de pathologie, alors, on peut travailler, par exemple? C'est le cas avec le Centre national, par exemple. Vous travaillez sur différentes choses?
Il y a des pathologies autant physiques que psychologiques, mm-hmm. puis même des problèmes d'intégration sociale. Sur le plan on peut mentionner sur le plan psychologique, il y a l'anorexie, il y a l'autisme qu'on peut mentionner. Sur le plan physique, l'AVC, les accidents vasculaires cérébraux, oui, oui, oui. Le Parkinson, l'Alzheimer. Moi, j'ai travaillé entre autres sur un projet avec des jeunes enfants qui souffraient d'une maladie dégénérative qui s'appelle le Charcot-Marteau. Les enfants perdent la sensibilité de l'extrémité de leur membre, oui. donc perdent l'équilibre et la marche éventuellement.
On a des résultats concrets avec la danse?
On commence à pouvoir accumuler des résultats, mais les études sont pas assez nombreuses et on est encore à la recherche des bonnes méthodologies. Mm-hmm. Si je peux prendre un exemple, si je veux saisir un cheveu, je prendrai pas un gant de boxe. Donc, on est en train de découvrir quels sont les outils les plus sensibles pour telle pathologie mm-hmm. et telle client, ouais. telle population.
Alors, Christian Sénéchal, ça veut dire que voilà, cette danse-thérapie et qui pourrait constituer au fond une stratégie thérapeutique, hein, parallèle au traitement, aux autres traitements, vous êtes en train en fait d'étudier la chose en temps réel là pour le moment.
Oui, parce qu'on a plusieurs projets pilotes actuellement, soit en développement ou en cours. On a une vingtaine de projets dans des institutions médico-sociales.
Oui.
Et le but est vraiment d'intégrer le danse-thérapeute à une équipe multidisciplinaire. C'est-à-dire souvent ce qu'on va voir ailleurs, c'est que le danse-thérapeute va intervenir bon une heure ici et là dans l'organisation. Nous, on tient vraiment à ce qu'il soit intégré, pouvoir discuter en équipe multidisciplinaire, participer au temps de traitement et vraiment être un acteur autour des autres professionnels de la santé, que ce soit les psychiatres, les physiatres. Mmh.
Mais les institutions sont ouvertes, les médecins aussi sont ouverts. Vous étiez à Robert Debré donc cette semaine. Mais, comment vous a accueilli par rapport à ce projet? On vous a regardé avec un œil un peu amusé ou
non,
on prend ça très au sérieux?
Au contraire, y a, pour le personnel, il y a une espèce de libération. C'est ludique pour les jeunes, c'est ludique pour les patients de toute mmh. façon en général. Et d'avoir cette espèce de soleil-là qui rentre dans l'établissement, les patients sont très heureux, mais le personnel l'est aussi.
Oui.
Et souvent, c'est une discussion qu'on avait ensemble hier aussi, souvent le personnel hospitalier va être prêt à utiliser ces techniques-là lorsqu'on va voir utiliser tout le reste
des
approches médicales. Et là, lorsqu'on arrive en bout de service, en bout de traitement, là, tout à coup, on est plus ouvert à ces techniques-là.
Mmh. En fait,
alternatives. Sylvie Fortin.
En fait, on entend beaucoup de témoignages éloquents et les thérapeutes, les médecins entendent ces témoignages. Et de plus en plus, on sait que les résultats de l'imagerie cérébrale disent que le mouvement nourrit le cerveau, réorganise, a la capacité de réorganiser le cerveau. Donc, il y a de l'intérêt de ces différents médecins. Il y a comme mm-hmm. l'intuition d'un côté, les témoignages des patients. Et ensuite, sur le plan scientifique, on est intéressé à aller vérifier, à avoir assez d'études pour vraiment ouais. pouvoir quantifier qu'est-ce qui se passe.
Est-ce qu'on danse beaucoup chez les papous, Marc Dozier?
Oui.
C'est vrai?
Oui, ouais, ouais. Mm-hmm. Beaucoup. D'ailleurs, je me demandais s'il n'y avait pas des études qui avaient été menées avec la danse papou. Bon, j'en suis pas sûr.
Je ne saurais pas, mais ça m'intéresserait.
Moi aussi. Fabien Cavalier, vous voulez intervenir, notre physicien.
Justement, la question, vous avez parlé du tango. Est-ce que vous utilisez, on a entendu Elvis Presley, vous utilisez aussi du rock, des modus... Il n'y a pas de limite, ça peut être des danses tribales africaines, ça peut être n'importe quoi.
On peut utiliser une très, très grande variété. Souvent, c'est qu'on va s'adapter justement aux intérêts, aux préférences musicales des personnes avec qui on travaille. Mais une condition à ces bienfaits, c'est vraiment que les personnes s'engagent dans l'activité. Parce qu'on pourrait se demander si la danse ajoute une valeur par rapport à un programme de conditionnement physique ou une autre activité physique. Et on se rend compte que, justement, la musique est ensemble, l'aspect artistique, imaginaire, expressif. Alors, les personnes s'engagent beaucoup plus, viennent à leur thérapie. Il y a une rétention vraiment marquée par rapport à d'autres programmes.
Christian Sénéchal, il y a l'exemple américain, quand même, qui vous a précédé, quand même, de plusieurs décennies, même, quasiment.
Oui, mais la danse-thérapie existe aux États-Unis depuis les années 40. Il y a même une association, maintenant, de certification qui est une réputation internationale qui a été fondée dans les années 60.
Donc là, on a quand même de la littérature scientifique là-dessus, non?
Oui, mais enfin, aux États-Unis, c'est beaucoup, beaucoup axé sur la maladie mentale.
Ouais.
Comme Sylvie mentionnait, l'expérience canadienne qu'on vit, on est beaucoup plus dans ce que moi j'appelle une réadaptation qui va de physique à psychologique. Mm-hmm. C'est vraiment le besoin qu'il y a sur le terrain. Et ça, je dirais que c'est un peu nouveau aussi.
Et c'est que la danse a la possibilité de répondre à des problématiques mentales et aussi des problèmes de santé physique.
Est-ce que vous allez établir des ponts avec les Français, alors, peut-être?
Oh, mais c'est déjà fait.
Ouais.
Oh, c'est déjà fait.
Et de quelle façon, alors?
Ben, nous, on discute. Ben, c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé la journée du 15 mars dernier. C'est-à-dire, on a réuni vraiment, là, c'était plus art et santé, mais vraiment tous les acteurs qui sont de la culture, du domaine de la santé, des domaines publics et politiques qui s'intéressent à ce champ-là d'avoir de l'art en milieu de santé. Mais nous, on est déjà en lien avec des universités comme Paris Descartes, qui offrent un master en danse-thérapie, les associations d'art-thérapie, des fondations. Oui, c'est déjà...
Marc Dauzier, racontez-nous quand même cette anecdote vraiment incroyable avec les danseuses du Lido, c'est ça? Et vos papous?
Oui, c'est ça. En fait, ce chef Moudijé, qui est le personnage principal du film...
Dont on va parler tout à l'heure.
On va parler tout à l'heure. Il est venu en France à plusieurs reprises et... il a eu l'occasion d'aller au Moulin Rouge et au Lido. Il est devenu copain avec des danseuses du Lido. Et oui, c'est ça. C'est l'art des plumes, en fait, parce qu'en réalité, c'est exactement ça. Il partage quelque chose, cet art de la danse, cet art des plumes, le sens du spectacle. Un spectacle, c'est, il suffit qu'il y ait un public et quelqu'un qui produise un spectacle. Et donc, effectivement, il a invité ses danseuses du Lido dans son pays pour participer à un grand festival qui s'appelle le Hagen Show, qui est un grand festival tribal.
Donc en Papouasie.
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, voilà, c'est vraiment...
Et les danseuses du Lido sont allées là-bas.
Et les danseuses du Lido sont allées là-bas, donc trois danseuses avec le directeur du Lido. Et en fait, c'est une rencontre assez extraordinaire, c'est-à-dire que il faut imaginer que ces danseuses du Lido ne parlaient pas papou, que les papous ne parlaient pas français, et pourtant, il y avait un vrai échange.
Ils ont parlé plumes, alors,
voilà,
c'est
ça. C'est exactement ça, ils ont parlé spectacle, plumes, ils ont échangé beaucoup de choses, et je pense que ça rejoint ce que vous disiez sur la thérapie, c'est-à-dire qu'on se mobilise autour d'une passion. En fait, il n'y a pas besoin de langage, il n'y a pas besoin de... il suffit que notre esprit soit en éveil, en fait. Mmh. C'est vraiment ce qui s'est passé, voilà.
Voilà, mais longue vie en tout cas à ce Centre National de Danse Thérapie, en espérant aussi qu'il fasse des émules en France. Et puis en attendant, on peut voir ce soir, je ne suis pas sûr qu'il reste des places, mais on peut aller se renseigner sur le site du Théâtre Chaillot, La Jeune Fille et la Mort, donc par les grands ballets canadiens. C'est ce soir pour la dernière représentation à 20h30 et c'est théâtre-chaillot.fr. Allez, après la danse, eh bien nous allons onduler avec les ondes dans un instant.
Seule dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélod, je drague les nuages, seul dans ma fête, c'est dommage, et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau, je mets les voiles. Mais solo je prends l'eau des matelots.
Seul
sur ma plage. Je me tiens plus qu'un fil. Je ramasse mon coquillage fragile, solo dans ma gueule. Je peux plus voir, te voir dans toutes ces gueules.
Voilà une nouvelle voix que nous aimons beaucoup. Retenez bien son nom, elle s'appelle Juliette Armanet avec L'amour en solitaire. À l'instant, Fabien Cavalier, vous êtes également avec nous dans le club. Vous êtes physicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire de l'accélérateur linéaire à Orsay. Linéaire à Orsay, pardon.
Dur.
Oui, c'est pas facile. Lundi aura lieu la nuit des ondes gravitationnelles. C'est organisé justement par le CNRS et la Société Française de Physique. Une quinzaine de villes sont concernées.
À peu près. Une quinzaine de villes qui seront connectées. En fait, l'événement est en deux temps. Il y aura d'abord des conférences scientifiques dirigées vers le grand public, on va dire au niveau lycéen à peu près. Donc ça, c'est chaque site gère sa conférence de manière un peu indépendante. Le site de Paris au Grand Rex, ça sera retransmis sur Internet, vous pourrez le suivre sur Facebook. Et une deuxième partie où là, tous les sites seront ensemble. Il y aura un quiz inter-ville.
Ouais.
Il y aura des connexions.
Sur la physique aussi,
sur
évidemment.
La physique, en fait, pour voir si vous avez bien écouté la conférence précédemment. Et donc, il y aura un quiz, il y aura une visite du site de Virgo, dans l'expérience franco-italienne pour la recherche des ondes gravitationnelles.
Ouais.
Et il y aura après un débat science et... Une table ronde, pas vraiment un débat, mais une table ronde science et cinéma. Pour voir un peu comment est traité la relativité dans le cinéma. Donc,
Est-ce qu'on a déjà des films qui parlent des ondes gravitationnelles ou pas? Vous avez réussi à trouver des choses?
Non, il n'y a pas de film.
Pas encore, hein.
Les choses les plus proches qu'on a pu rencontrer, c'est Interstellar, dans lequel Kip Thorne, qui est membre de l'IGO, était aussi conseiller scientifique.
C'est vrai.
Donc c'est sûrement le film le moins incorrect
c'est ça.
Qu'on a pu faire.
L'IGO Virgo, alors expliquez-nous en deux mots ce que c'est, pour qu'on comprenne bien.
Voilà, donc c'est les deux expériences. Donc l'IGO, c'est l'expérience américaine, Virgo, c'est l'expérience franco-italienne, qui travaille maintenant main dans la main depuis plus de dix ans maintenant, et qui ont fait la première découverte directe des ondes gravitationnelles en février l'année dernière.
Quand vous dites ce sont des expériences, concrètement, ce sont quoi? Des détecteurs au fond?
Voilà,
ce sont des outils, des appareils?
Oui, ce sont des appareillages assez complexes qui finalement transforment une onde gravitationnelle qui vient du cosmos en signal électrique qu'on va pouvoir enregistrer.
Ouais.
Donc c'est vraiment des objets qui font 2 fois 3 kilomètres de long, extrêmement complexes, dédiés à ce type de détection.
Alors nous avons l'enregistrement aussi officiel des ondes gravitationnelles. Alors écoutez bien, parce que ça dure très très peu de temps, mais ça vaut le détour. Voici donc le son des ondes. Alors voilà, c'est tout. Fabien Cavalier,
vous les avez entendus 3 fois.
Ouais, c'est ça, on l'a multiplié pour l'entendre un peu plus longuement. Qu'est-ce qu'on entend alors là exactement? C'est un vrai son ou c'est quelque chose qui a été réinterprété pour pouvoir justement donner un son à ces ondes?
Non, vraiment, si on avait pris la sortie électrique du détecteur, le courant qui sort de la photodiode, et on l'avait branché sur un ampli, après un peu de mise en forme, mais assez légère, c'est vraiment ce qu'on aurait entendu. C'est vraiment la... Les fréquences émises correspondent aux fréquences audibles naturellement. Donc, il n'y a pas trop de bidouillage entre les deux.
Alors, il nous vient d'où ce son, alors, exactement?
Alors, là, le son qu'on a entendu, ça vient de la fusion, la coalescence, la collision de deux trous noirs
ouais.
qui, qui se sont rentrés dedans il y a 1 milliard d'années à peu près,
ouais.
Donc relativement loin dans l'univers.
Christian Sénéchal montre voilà, sa tête en disant c'est un truc de fou.
Truc de fou, non, on veut dire en astronomie, en cosmologie, on fait des choses bien ouais. pires que ça. Enfin, en tout cas, on observe le cosmos bien plus tard mm-hmm. dans sa vie. Donc 1 milliard d'années-lumière, c'est pas si loin que ça à l'échelle du cosmos.
Ouais. C'était hier.
C'était hier à peu près.
Ouais. Alors justement, cette nuit des ondes gravitationnelles, là, ça vient juste 1 an après l'annonce de la détection directe, donc hein, de ces ondes gravitationnelles, publication en février dernier. Donc c'est l'occasion vraiment de redire à quel point c'est important aussi en astrophysique, en cosmologie, d'avoir fait cette découverte.
Oui, c'est une sorte un peu d'anniversaire. Puis bon, il y a un côté mise en œuvre qui prend toujours un peu de temps. Je crois que oui, ça marque la fin de la première année de l'astronomie gravitationnelle. On a posé une première pierre. Il y a encore beaucoup de travail derrière. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir.
Oui.
Et je crois que c'est bien de sensibiliser l'ensemble du public sur des résultats qui peuvent paraître parfois assez abstraits.
C'est ça.
On se dit, ben, à quoi ça sert? Je crois que c'est bien d'aller au contact des gens pour leur expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait.
Et cette nouvelle ère aussi hein, qui s'ouvre aujourd'hui avec cette astronomie gravitationnelle, c'est ça?
Oui, tout à fait. On va pouvoir voir le cosmos d'une manière assez différente, un peu, ben, finalement, certains disent, avant on avait juste l'image avec les télescopes, etc. Mais là, maintenant, on a aussi le son. Donc on va voir des films un peu mieux. On passe du muet au premier film parlant.
Ouais. Et c'est énorme, parce que ça veut dire que vous allez faire des découvertes probablement très importantes avec ces nouvelles lunettes de l'astronomie, on peut presque dire ça comme ça. Hein.
Alors, c'est vrai que pour l'instant, on n'a vu que des connaissances de trous noirs, mais bon, l'avenir est, je pense, assez brillant. On va améliorer encore le détecteur, il y a des chances qu'on voit d'autres choses qu'on n'a probablement jamais vues. Donc, dès qu'on a un nouvel instrument, il y a de la nouveauté.
Alors, il aurait même fallu qu'on commence par ça, mais qu'est-ce que c'est exactement qu'une onde gravitationnelle et d'où ça vient exactement dans cette histoire de notre univers là?
Donc, les ondes gravitationnelles, c'est une prédiction de la relativité générale d'Einstein.
Mm-hmm.
Et donc, c'est créé par l'explosion d'étoiles ou la coalescence d'objets comme les trous noirs. Et donc, l'image qu'on peut en avoir, c'est il y a une explosion quelque part dans l'univers, un peu comme on jette un caillou au centre d'un lac, qui va faire des vagues qui vont se propager jusqu'à la rive. Et nous, finalement, on est sur la rive, à 1 milliard d'années-lumière du centre du lac, et on voit ces ondes arriver.
Voilà, c'est le temps de propagation en fait de ces ondes.
Voilà, parce que elles sont
très loin. Parce que ça a été là, en l'occurrence, entre ces deux trous noirs. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que le Big Bang aussi, au tout début de l'histoire de notre univers, ait généré des ondes gravitationnelles?
Tout à fait. Il y a des recherches dans ce sens-là. Dans la bande de fréquences de... Parce que Virgo ne voit pas toutes les ondes gravitationnelles, on voit que certaines fréquences, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a des prédictions, c'est assez incertain, mais oui, on pourrait voir des choses qui viennent du Big Bang.
Pourquoi elles sont difficiles à observer, ces ondes gravitationnelles?
Parce que l'effet qu'elles font sur la matière est extrêmement faible. Détecter les ondes gravitationnelles, ça revient à mesurer très précisément des longueurs. Et pour vous donner un ordre de grandeur, si j'avais une règle qui allait de la Terre au Soleil, au passage de l'onde gravitationnelle, cette règle s'allongerait de la taille d'un atome.
Ouais.
Donc, il faut qu'on arrive à mesurer des effets aussi petits que la taille d'un atome par rapport à une distance Terre-Soleil. C'est ça la grande difficulté.
Ouais. Pourtant, on baigne dans ces ondes gravitationnelles?
Oui, il y en a qui, probablement, qui passent, mais il ne faut pas s'inquiéter.
Oui, c'est pas dangereux pour la
santé.
C'est
pas dangereux.
C'est pas grave, on a la danse-thérapie de toute façon aujourd'hui. On va pouvoir tout faire avec. Mais en l'occurrence, on va être capable d'en détecter de plus en plus.
C'est ce qu'on espère. Donc, on l'a avec la première prise de données. On a fait pendant 4 mois, on en a détecté 2.
Mmh.
Et là, on est en train de faire une nouvelle prise de données. On espérait être un peu plus sensible que précédemment et en voir 2 fois plus. C'est en fait très difficile. Donc, on est à peu près comme la fois d'avant. Donc, on espère encore en voir quelques-unes.
Oui, ce serait bien pour faire d'autres publications, justement.
Exactement.
En attendant donc cette nuit, alors c'est lundi. Hein.
Tout à fait.
Lundi, 14 sites en France sont concernés. Donc, on va donner...
Et en Italie.
Il y a 2 sites en Italie. Alors, c'est nuit-des-ondes-gravitationnelles. Hein. C'est le site du CNRS, de toute façon.
Oui, nous sommes nuit-ondes-gravitationnelles dans n'importe quel moteur de recherche.
Vous allez tomber dessus. Plusieurs villes donc seront là pour vous recevoir, discuter donc avec les chercheurs, voir des les films, vous amuser avec le quiz. Et puis ce sera surtout l'occasion d'en savoir un peu plus sur cette physique, cette nouvelle astronomie gravitationnelle, comme vous nous le disiez tout à l'heure, Fabien Cavalier. Allez, vous restez dans un instant avec nous. Nous allons dans le pays des papous. Naturally the dying man wonders to himself. His commentary been more lucid than anybody else. And had he successfully beaten back the rising tide of idiots, dilettantes and fools, on his watch while he was alive. Lord, just a little more time. Oh, in no time at all, this will be the dearest staring past. So says the dying man, once I'm in the box. Of all the overrated hacks running amok, and all of the pretentious, ignorant voices that will go unchecked, the homophobes, hipsters, and 1%, the false feminists he'd manage to detect. All who will critique them once he's dead. Final breath, but first checks his news feed to see what he's about to miss. It occurs to him a little late in the game. We leave as clueless as we came, from the rented heavens to the shadows in the cave. We'll all be wrong. Un peu du Elton John, mais ça n'est pas du Elton John, c'est Father John Misty avec Ballad of the Dying Man.
La tête au carré. Le club. sur France Inter.
Avec mes invités canadiens Christian Sénéchal et Sylvie Fortin, Fabien Cavalier qui nous parlait donc des ondes gravitationnelles. Et d'ailleurs un lien, on pourrait faire ce lien, Sylvie Fortin, entre la danse aussi et la physique, mais pas seulement, parce qu'il y a un concours en Amérique.
Oui, il y a quelques années, il y a un concours qui a été lancé, puis qui maintenant est un événement international. On invite ce sont des chercheurs scientifiques qui ont créé l'événement. Ça s'adresse à des chercheurs scientifiques qui sont invités à danser leur doctorat, à danser les résultats de leur recherche scientifique. Bon, l'idée, c'est qu'on a toute une représentation, une carte conceptuelle de notre sujet, de nos résultats de recherche. Et c'est des mettre en mouvement, c'est des incorporer dans le corps, dans l'espace, dans le temps, avec une certaine énergie, une espèce de molécule qui rend compte, un électron qui sépare, qui s'attire.
Allez, vous qui aimez tant la francophonie, donnez-nous le titre quand même s'il est anglais.
Dance the PhD.
Voilà, et ça on peut aller sur Internet, hein. Il y a tout un tas de vidéos, donc Fabien Cavalier, on vous attend, vous aussi, hein, votre petit tour de danse pour nous faire celle des ondes gravitationnelles. Marc Dozier, vous êtes spécialiste des Papou, et vous venez de réaliser avec Luc Maresco ce film Frères des arbres, l'appel d'un chef papou qui va être diffusé demain sur Arte. Ce sera à 20h50 dans le cadre d'une programmation spéciale autour de la journée de la forêt qui, elle, aura lieu le 21 mars.
S'il vous plaît, ne me demandez pas de vous le danser.
Ah, vous pourriez le faire.
Non.
Je vous ai vu en tout cas habillé en papou.
Oui.
Et on le voit d'ailleurs dans le film.
Oui, c'est vrai.
Ça fait combien de temps que vous allez en Papouasie-Nouvelle-Guinée?
Oh, ça fait plus de 20 ans. J'étais étudiant en fait en Papouasie. Ça peut paraître surprenant, mais j'ai fait mon PhD.
C'est ça.
Non. J'étais étudiant en Papouasie-Nouvelle-Guinée et puis j'ai rencontré beaucoup de papous qui m'ont, entre guillemets, adopté, mais qui m'ont emmené dans leur village, etc. Et c'est là qu'a commencé cette histoire d'amitié, d'amour pour ce pays.
Voilà. Ouais. C'était il y a très longtemps. À l'époque, vous aviez des cheveux, paraît-il. Hein, et votre copain papou vous appelle même tête de vieille fourmi aujourd'hui, ou grand cocotier. C'est comme ça qu'il vous présente dans le film. Donc les choses ont bien changé.
Non, effectivement, c'est vrai, j'ai une tête de vieille fourmi et je suis un grand cocotier.
Voilà.
Mais c'est ce que j'aime en fait dans les films qu'on réalise autour de Moudijé Kepanga, qui est le héros de ce film, qui porte un peu tout ce film.
C'est un chef de tribu.
C'est un chef d'une tribu. Il n'est pas élu, il le dit lui-même, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il n'a aucune fonction officielle. C'est vraiment un représentant des peuples autochtones dans tout ce qu'on peut avoir de plus traditionnel. Et je pense que c'est un personnage très fort et très charismatique, parce qu'en fait, justement, il regarde notre monde différemment. Quand il vous parle de moi, au lieu de vous dire que je suis grand, il vous dit que je suis un grand cocotier. Au lieu de vous dire que je suis vieux, il vous dit que j'ai une tête de vieille fourmi. Mais ça nous permet aussi, ça nous pose des questions sur notre propre représentation du monde. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé de réaliser ce documentaire avec lui, parce que c'est un documentaire sur la forêt et la déforestation. Nous, les Blancs, on donne toujours notre avis sur tout. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant justement d'écouter quelqu'un qui justement nous en parle de l'intérieur. Mmh. Dans le film d'ailleurs, il dit « Moi, je suis un enfant de la forêt. Vous tous ici, là, autour de cette table, on est né dans une clinique ou dans un hôpital. Lui, il est né dans la forêt, au pied d'un arbre. C'est pour ça que c'est un fils de la forêt et ça m'intéressait d'écouter cette voix de la forêt. »
Ben justement, on va écouter l'extrait précisément où Moundia Kepanga nous décrit l'arbre au pied duquel il est né.
Cette forêt nous a été léguée par nos ancêtres. Pendant des générations, ils en ont pris soin, afin que nous puissions revenir chaque jour les bras chargés de quoi manger. Cet arbre, c'est mon arbre. Je suis né ici. Mon père l'a planté à ma naissance. Je ne suis pas né dans un hôpital ou une clinique. Je suis né ici, sur un tapis de feuilles. Nous avons grandi ensemble. Moi, je suis resté petit. Mais lui est devenu très grand. Il a même une barbe blanche. Comme moi. Qui de nous deux mourra le premier? Je n'en sais rien. Mais à ma mort, ils m'enterreront ici avec ma famille. Mon grand frère. Ça me fait quelque chose de te tenir dans mes bras.
Voilà la voix de Moundia Kepanga, extrait du film Frères des arbres, l'appel d'un chef papou, demain donc sur Arte. Marc Dozier, c'est un film donc qui à la fois un portrait donc de ce chef de tribu, et puis aussi sur le problème criant de la déforestation en Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce qu'on ignore à quel point le bois est précieux et constitue une économie très très forte là-bas, à tel point que la forêt est totalement décimée.
Exactement, en général on parle souvent de l'Amazonie, C'est vrai que bon, c'est un drame qui se passe en Amazonie depuis des années. Mmh. Mais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est relativement récent. Depuis 2007 à peu près, il y a une nouvelle loi qui a été votée en Papouasie, qui s'appelle SABL, qui permet de louer des terres pour couper des arbres et pour ensuite, si on s'engage à y développer de l'agriculture, eh bien on a le droit de couper ces grandes forêts, ce qui était interdit jusqu'à présent. Donc des sociétés étrangères, originaires de Malaisie, de Chine, se sont engouffrées dans cette brèche. Mmh. Et en quelques années, en fait, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est devenue un des premiers pays exportateurs de bois exotique. Ouais. Il y a quelques années, ils étaient peut-être 150e. Aujourd'hui, ils sont le premier pays exportateur depuis 2014, parce qu'il y a eu comme un espèce d'appel d'air, c'est-à-dire que cette nouvelle loi a permis que, hop, on coupe, on puisse développer des exploitations forestières. Ouais. Donc c'est vraiment un drame important.
L'ensemble de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mm-hmm. c'est de la forêt ?
Alors en fait, 70% ouais. de la Papouasie-Nouvelle-Guinée est couverte de forêt. Pour avoir une idée, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est un petit peu plus petit que la France.
Ouais.
Et il y a environ un tiers maintenant du pays qui est sous concession. Imaginez à peu près la France, vous dites qu'il y a un tiers, vous dites qu'un tiers a été autorisé à être exploité pour couper tout le bois qui s'y trouve. Donc c'est un problème majeur et c'est vraiment un drame. J'ai envie de vous dire, pas forcément de couper du bois, parce que couper du bois n'est pas un scandale, ce que dit Moody Jay dans le film. Couper du bois, c'est pas un problème si vous le replantez. Si c'est en France, on coupe du bois tous les jours et pourtant notre forêt augmente.
Ouais.
Contrairement à des idées, à des préjugés qu'on pourrait avoir. Mais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est une forêt qui est très particulière, c'est une forêt primaire. C'est-à-dire que, comme dit Moody Jay, ce chef papou, c'est une forêt qui est née au début du monde. Peut-être pas à l'époque du Big Bang, mais en tout cas, on n'était pas là quand cette forêt est née. Elle a une valeur extraordinaire, c'est un patrimoine mondial à préserver. Moody Jay dit que c'est comme la Tour Eiffel ou comme le Taj Mahal. C'est un patrimoine mondial à préserver, il y a des espèces qui sont uniques, ces arbres ne reviendront pas sur cette planète. Une fois qu'on les aura coupés, ce sera terminé. Mmh. Donc elles ont une valeur particulière et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin.
Ouais. Voilà. Alors il y a 300 concessions, je crois, maintenant.
C'est ça, 300 concessions autorisées.
Mmh. Ouais, avec mmh. beaucoup donc de concessions asiatiques hein, qui sont ouais. là, mmh. les Chinois, la ouais, Malaisie ouais. en particulier. Mmh. Et puis on voit aussi toute l'exploitation des papous, ouais. qui ignorent à quel point ils se font avoir d'ailleurs. Hein.
Oh non, ils ignorent enfin, pas qu'ils se font avoir.
Enfin, vous montrez le prix, oui. le prix qui oui, leur vrai. Revient et le prix de revente ensuite du bois.
Effectivement, ils connaissent pas le prix sur le marché international. Mais c'est vrai que c'est ce que je trouve aussi intéressant dans ce documentaire de s'appuyer sur ce personnage qu'est Moody Jay, c'est que nous, les Blancs, on aurait tendance à dire il faut pas couper le bois, c'est pas bien. Bon, mais de quel droit est-ce qu'on peut décider de ce que les autres font ou ne font pas? C'est pas chez nous. Et justement, le fait que ce soit Moody Jay qui nous en parle, lui, nous dit, vous savez, les premiers fautifs, c'est nous, les papous. Mmh. C'est nous qui coupons le bois. Ensuite, les Chinois viennent faire du commerce. Bon, ben, très bien. Et puis ensuite, il y en a d'autres qui l'achètent. Mais on est tous responsables, autant vous que moi. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne nous jette pas la pierre à nous, les méchants blancs, mais on se pose la question, on se dit que tout le monde a une responsabilité. Et donc, ce chef papou, Niger, reconnaît que avant tout, ce sont des papous qui coupent leur bois parce qu'ils ont ouais. besoin aussi de survivre.
Voilà. Ouais. Christian Sénéchal, vous qui avez quand même aussi au Canada une terre de forêt et ouais. d'arbres, comment se passe l'exploitation forestière d'ailleurs ? Il n'y a pas de déforestation au Canada ? Il n'y a pas de problème particulier ?
Il y a beaucoup de programmes...
Ah, c'est Sylvie Fortin qui répond. Sylvie Fortin ne s'appelle pas Christian.
C'est vrai que j'ai trouvé une voix très féminine.
J'ai les yeux grands ouverts. C'est que je viens du nord du Québec, que je connais un peu. En fait, oui, la coupe de bois à blanc qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on coupe tout et le reboisement se fait, mais le reboisement, il semblerait, n'est pas plus efficace que la repousse naturelle. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un problème qu'on essaie de contrôler et bon, les environnementalistes avec les développements.
Et ce que j'ai entendu dire aussi, c'est qu'on a tendance à garder une lisière de forêt apparente. Ce qui fait qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière.
Ah, c'est une façon de cacher le problème, voilà. peut-être aussi. Bon. En tout cas, Marc Dozier, votre ambassadeur Mundi Akepanga, il fait le tour du monde. On le voit à Paris, d'ailleurs. On le voit dans les Landes, s'il est allé voir un peu comment se comporte notre drôle de forêt landaise. Hein, parce qu'il a été très surpris de voir comment on pratique chez nous.
Oui, exactement. C'est vrai qu'il a été surpris de découvrir qu'en France, on exploitait le bois. Et il pose, tout au long du documentaire, et il pose des questions simples. Mais pourquoi est-ce que vous, les Blancs, vous venez couper le bois chez moi alors que vous en avez chez vous ? Mmh. C'est tout bête, mais c'est vrai que ça pose question. Alors ça peut paraître naïf et il n'y a pas une réponse. Et une problématique est bien plus complexe que ça. Mais nous aussi, on exploite le bois chez nous. Il est venu le découvrir et c'était, je pense, important pour lui. Mais au-delà de cette rencontre, qui était une rencontre entre des forestiers, lui de Papouasie et puis des forestiers dans les Landes, il est souvent invité à intervenir. Il est intervenu à l'UNESCO à plusieurs reprises, à l'occasion de la COP21. Oui. Il a été invité par Robert Redford.
Alors, par Robert Ford.
Robert Ford.
C'est comme ça qu'il l'appelle.
Bon, il faut expliquer pourquoi, alors.
Il l'appelle Robert Ford.
Voilà.
Parce qu'il ne le connaît pas, évidemment.
Que, voilà, c'est ça. Quand Mudigi a rencontré Robert Redford, il ne le connaissait pas. Donc, il l'appelait toujours Robert Ford. C'est vachement sympa.
C'est ça.
Et ça faisait beaucoup rire Robert Redford. Ouais. Parce que, évidemment, Robert Redford est très engagé pour la défense de l'environnement. Et il a invité Mudigi à s'exprimer pour, parce ouais. que c'est vraiment une voix de la forêt qui essaye de nous sensibiliser à ces questions qui sont essentielles.
Eh bien, on verra ça donc dans ce film demain soir, donc à 20h50, Frères des arbres. Hein, c'est donc l'appel d'un chef papou, film que vous avez réalisé avec Luc Maresco. Et ce sera l'occasion de parler de la forêt, l'occasion de la journée mondiale de la forêt qui, elle, aura lieu le 21. S'il reste des places, vous allez au théâtre de Chaillot ce soir pour applaudir les grands ballets du Canada avec La jeune fille et la mort. Et puis lundi, La nuit des ondes gravitationnelles avec le CNRS. Merci beaucoup à tous.
Merci.
Passez un bon week-end.